Biodiversité on Air, un magazine proposé par la Corlab, la coordination des radios locales associatives de Bretagne, avec le soutien de l'Office français de la biodiversité.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous vous proposons un portrait, celui du parc naturel régional d'Armorik, dans le Finistère. Ce parc fait partie des parcs naturels régionaux français et est le deuxième du nom à avoir été créé et labellisé par le ministère de l'Environnement en 1969. Le parc est également reconnu au niveau international avec un double label de l'UNESCO, Biosphère d'Iroise et Géoparc d'Armorik. La fonction d'un parc naturel régional est de protéger, de mettre en valeur de grands espaces ruraux. Les missions sont donc multiples, la gestion du patrimoine naturel, culturel et paysager, l'aménagement du territoire, le développement économique et social, l'accueil, l'éducation, l'information, l'expérimentation et l'innovation. Le parc naturel d'Armorik est un territoire très vaste qui se compose des îles de la mer d'Iroise, de la presqu'île de Crozon, de la rade de Brest, de l'estuaire de l'Aude-Maritime et des monts d'Arrée, point culminant de la Bretagne composé de paysages de tourbières et de landes rases. Et c'est justement dans les monts d'Arrée, l'une des réserves Natura 2000 du parc, aire protégée au niveau européen, que nous allons faire connaissance avec l'une des activités majeures du parc. C'est un portrait signé Véronique Museau de Radio Évasion, votre radio associative dans la région du Fou.
Donc je suis Harmonie Corollaire, je suis chargée de mission Natura 2000 au parc naturel régional d'Armorik. Je travaille sur plusieurs sites Natura 2000, dont celui des monts d'Arrée. Donc le site Natura 2000 des Monts d'Arrée, c'est un peu plus de 10 000 hectares de milieux naturels, principalement composés de landes, plusieurs types de landes, des landes sèches, des landes mésophiles, des landes humides, des tourbières, mais également des cours d'eau, des forêts de feuillus. Les gros enjeux, c'est la conservation des landes qui sont des milieux ouverts, qui autrefois étaient gérés par l'homme, par l'agriculture, via la fauche et le pâturage. C'est une pratique qui disparaît avec l'agriculture qui change. Et donc, une des missions sur le site, c'est réouvrir des landes et les remettre en gestion avec les agriculteurs. Un autre enjeu, c'est que certaines landes ont été boisées par des résineux. Il faut savoir qu'en l'espace de 40-50 ans, on a perdu quasiment un tiers des landes ont été transformées, soit par transformation naturelle, elles se sont boisées ou elles se sont enfrichées naturellement, et d'autres ont été boisées par l'homme via des résineux, donc des espèces qui ne sont pas d'origine naturelle en Bretagne. Et donc une des missions, c'est sur les espaces naturels où les arbres n'ont pas de vocation, n'ont pas de production et donc n'ont pas d'enjeu sylvicole, on peut les enlever pour permettre une restauration de la lande, milieu plus naturel ici. Un enjeu climatique, on s'est rendu compte en 2022 qu'on n'était pas à l'abri d'une grosse sécheresse. On a eu plusieurs années avec très très peu d'eau en 2021 et en 2022. En 2022, on a atteint plus de 40 degrés dans les monts d'Arrée, ce qui est extrêmement rare, et on a eu un incendie, certainement d'origine criminelle, mais du fait de cette haute température, l'incendie n'a pas pu être maîtrisé. Et on a 2000 hectares qui ont brûlé. Donc sur le site Natura 2000, c'est 20% du site Natura 2000 qui a brûlé. Donc c'est un feu qui a été quand même assez courant, c'est-à-dire qu'il n'a pas stagné, donc la végétation réagit bien. On retrouve maintenant aujourd'hui les espèces de la lande. Maintenant il y a des secteurs où on ne voit pas que le feu est passé, mais si on regarde un peu plus à travers les graminées, on se rend compte que si, on a encore un sol qui est en train de cicatriser de cet incendie de 2022. Un autre enjeu qu'on a sur le site Natura 2000, c'est un travail avec les randonneurs. C'est les monts d'Arrée, c'est assez fréquenté. Il y a beaucoup de randonneurs à venir ici, beaucoup de touristes, et donc travailler avec eux pour une bonne prise en compte des espaces naturels pour les pratiquants. Et un gros enjeu qu'on a encore sur le site Natura 2000, c'est les études d'incidence. Donc c'est un des volets sur lesquels je travaille qui prend beaucoup de temps. C'est par exemple quand un organisateur veut faire une course sur le site Natura 2000, on l'accompagne pour qu'il puisse mieux prendre en compte les habitats naturels et les espèces. Donc on va lui demander par exemple s'il fait une course au printemps, de ne pas aller sur les secteurs où on sait qu'il y a des oiseaux qui nichent au sol, de ne pas aller se faufiler dans un secteur où on sait qu'il y a des espèces protégées. Et donc via les études d'incidence, on essaye de mieux prendre en compte les enjeux Natura 2000 dans le cadre des activités humaines. Et enfin, un énorme travail qu'on a sur le site, c'est la préservation des oiseaux. On a plusieurs espèces d'oiseaux rares, on peut parler du courlis cendré. D'autres oiseaux également sur lesquels on va travailler, ce sont les busards, busard Saint-Martin et busard cendré. Et ce sont des oiseaux qui nichent dans les landes, d'où l'intérêt de retravailler encore une fois avec les agriculteurs pour gérer les landes de manière ancienne, par fauche et par pâturage, pour avoir des secteurs pour ces oiseaux pour pouvoir nicher, puisqu'ils nichent vraiment au sol dans la lande. Donc le site Natura 2000, évidemment, on n'est pas seul à travailler. Il y a les agriculteurs, mais il y a aussi des associations comme Bretagne Vivante qui travaillent sur les réserves naturelles, tous les naturalistes, le groupe Mammalogique Breton. On travaille aussi avec des experts scientifiques, le conservatoire botanique. On se rencontre à peu près une fois par an en comité de pilotage pour discuter un peu des enjeux, des actualités sur le site, des difficultés qu'on rencontre pour essayer de mieux les prendre en compte et travailler ensemble sur ce site-là. On va aujourd'hui aller visiter deux sites sur les Monts d'Arrée. Donc un premier qui est à Plougonvin, le site de Kermeur, qui appartient à Alain Poupon. Une petite pépite, un petit joyau de landes humides et de tourbières autour d'un paysage plus agricole. Et ensuite, nous irons sur les crêtes des Monts d'Arrée, aller voir au niveau du Rohr-Trévézel ce qui s'y passe. On a une super lecture du paysage où on pourra découvrir la beauté des landes mésophiles et des landes sèches et tout le travail qu'on peut mener avec les agriculteurs qui conserve ce paysage ouvert dans les landes des Monts d'Arrée.
Je suis Alain Poupon, je possède la parcelle du Kermeur. Ce bois que j'ai acheté en 2016, il fait 38 hectares. Il est composé de deux étangs, et puis deux tourbières, une de chaque côté, et puis du pin qui a été planté il y a une soixantaine d'années peut-être. Et que je suis en train avec la complicité du parc Vermorique, on a déjà enlevé tout ce qui était résineux. Parce que le but, en fait, qu'ils m'ont proposé, c'était de remettre tout à l'état sauvage, comme c'était avant, en fait.
Ouais, parce que vous dites que c'est un bois, mais en fait, c'est pas tout à fait.
Ah, c'est pas un bois, non, mais pour moi, j'appelle ça le bois de Plougonvin, parce que c'est tout entouré de bois, quoi, et au milieu, c'est le trésor.
On va aller voir, il y a toute une partie de landes humides et de tourbières qui entourent les étangs avec tout un tas d'espèces liées à ces milieux naturels. Et un peu plus loin, il y a effectivement une plantation d'arbres. Ce sont des pins, puis on a une voie verte aussi qui traverse le site où les gens peuvent se promener. Et maintenant, s'ils regardent entre les arbres, ils peuvent voir qu'il y a un espace ouvert au milieu et on retrouve cette végétation plutôt rase qu'on a dans les landes et les tourbières. Alors ici, on n'est pas très loin de la réserve du Cragou, par exemple, mais tout autour du site de la tourbière de Kermeur, on a des espaces plus agricoles. On a des pâtures, on a des champs, des céréales, et on n'a pas les espaces naturels qu'on retrouve ici.
Vous allez voir, c'est très très beau. Je les avais achetés déjà parce que la beauté du site, et puis je suis quand même un peu amoureux de la nature. Et puis en plus, je chasse la bécasse, uniquement la bécasse. Et puis là, c'est quand vous êtes là, c'est le bonheur complet. Il n'y a ni téléphone qui passe, ni électricité. C'est comme avant.
Un peu une bulle temporelle.
C'est une bulle temporelle, exactement. Et puis j'ai un petit local où on mange entre les copains, ou quand on vient travailler, quand on vient nettoyer le. Parce qu'on s'occupe aussi de nettoyer tous les abords, de couper les bois morts qu'il y a dans les parcelles, de mettre ça. Mais je veux en aucun cas changer l'état de la. Ça restera comme ça, enfin, tant que ce sera à moi. Hein.
Et si on revient 2 ans en arrière, cette parcelle-là, elle était boisée, elle était parsemée de beaucoup de pins qui venaient des plantations qui sont autour du site. Et du coup, les pins avaient colonisé de plus en plus sur la lande. Et c'est ces pins-là qui ont été enlevés dans le cadre des travaux du LIFE, puisque M. Poupon était plus que partant qu'on fasse ces travaux pour restaurer le milieu, pour retrouver un espace naturel ouvert, typique des Monts d'Arrée. Et on le voit bien qu'il n'y a plus d'arbres, on le voit bien derrière, c'est tout ouvert, et on ne voit aucune trace des travaux. Pourtant, il y a eu des engins à venir là, et quand on va dans la parcelle, on n'y a pas de traces, les travaux ont été très très bien réalisés, donc c'est magnifique.
Ah bah peut-être que t'as les étudiants qui arrivent, mais ça c'est pas un peu plus.
Non, il y a un couple
Donc en fait, sur le site, il y a plusieurs drains comme ça, au long de la parcelle. Ils ne sont pas forcément très profonds, ils font entre 40 et 50 cm de profondeur, une largeur de pareil, 40 cm. Donc certains drains sont en eau et font plus des espèces de mares, où là on a remarqué qu'il y avait beaucoup de pontes d'amphibiens, donc il n'y avait pas d'intérêt à aller les boucher. Tandis que d'autres drains, il y avait de l'eau qui coulait, et donc il y avait une incidence sur le régime hydrique de la lande humide et de la tourbière. Et donc ces drains ont été bouchés. Sur les 11 drains qui ont été répertoriés, 4 ont été bouchés via des bouchons. En fait, on a repris de la matière qu'il y avait ici, donc des arbres qui avaient été coupés, puis également des touradons de Molini qui ont été pour tasser le sol de manière à ralentir les écoulements de l'eau et favoriser du coup un retour de l'humidité sur l'ensemble du site, qui pourra également impacter la reprise potentielle des résineux, puisque quand on abat des résineux, on sait que la banque de graines de ces arbres-là, notamment des pins, est encore présente. Le fait de mieux remettre en eau le site permet de ralentir cette reprise d'arbres de pins. Les touradons de Molini, en fait, la Molini, c'est une graminée qui est assez classique dans les landes et les tourbières. Quand elle pousse, elle va faire des espèces de gros blocs, et ces gros blocs, on appelle ça des touradons. C'est un peu l'image qu'on a classique quand on voit dans les tourbières des grosses touffes d'herbe. Et bien, ce sont des grosses touffes de Molini. Et après, on a tout un tas d'autres plantes, donc notamment l'ajonc. À côté, on a des bruyères, donc il y a plusieurs types de bruyères. Ici, on est sur un cortège de zones humides, donc on va retrouver la bruyère à quatre angles, qui est celle-ci. Les fleurs forment un petit pompon sommital au sommet de la plante. Et on remarque que les feuilles sont transformées en toutes petites aiguilles et elles sont poilues. On regardera tout à l'heure. J'ai une petite loupe pour vérifier ce que je dis.
Ah oui, elles ont du poil.
Voilà, elles ont toutes des petits poils. Et donc ça, on est sur la bruyère à quatre angles et la bruyère ciliée qui est juste en face. Elles, les fleurs sont le long de la tige, recourbées toutes du même côté. Donc c'est celle-ci. Et elle est également poilue sur ses petites aiguilles. À l'inverse de la lande, dans la lande sèche,
il n'y a pas de moi, en fait.
Où on a la bruyère cendrée qui, elle, est glabre, qui est sans poils. Les sphaignes, donc il y a tout un tas de sphaignes différentes. Donc c'est ces plantes qui ont un aspect, c'est des petites éponges. Quand on appuie dessus, on revoit qu'elles sont gorgées d'eau. Et au sommet, on a ce qu'on appelle un capitulum, cette petite tête en étoile. Donc ça, ce sont les sphaignes qu'on retrouve dans les landes humides et les tourbières. Les sphaignes, elles retiennent énormément d'eau, tout l'hiver, tout l'automne. Et c'est cette eau, après, qui est stockée dans la plante, qui peut être lâchée au milieu naturel dans des périodes un peu plus sèches. Et puis on a une sphaigne très particulière qui est juste derrière moi. Donc on va y aller chacun notre tour pour aller la voir, puisque c'est une espèce très protégée. Cette sphaigne de la Pilette, c'est une espèce qui est dite d'intérêt communautaire. Donc ça veut dire qu'elle est présente dans la directive Habitat. Elle fait partie des espèces qui ont fait que le site était Natura 2000. Il faut savoir que plus de 90% des populations nationales de la sphaigne de la Pilette sont dans les monts d'Arrée. Donc on a un enjeu de conservation très très fort à l'échelle du site Natura 2000. Alors, donc là, on n'est pas sur le même type de plante. Là, c'est la famille des lycopodes. On voit une très, très grande station. Donc, c'est cette plante-là. On a une petite tige recouverte comme de petites écailles. Donc, ça pique pas, c'est tout doux. Et de temps en temps, on a une tige fertile donc, qui remonte. Et donc, il s'appelle le lycopode inondé. Et il s'appelle comme ça parce qu'une partie de l'année, la station est recouverte d'eau. Et à d'autres parties de l'année, comme c'est le cas maintenant, on a beaucoup moins d'eau. C'est une plante dite pionnière, comme les Drosera, qui sont les plantes carnivores rouges qu'on retrouve par-ci et là. Donc là, j'en vois pas, on ira voir juste après si on en trouve. Et donc, les plantes pionnières, elles vont pousser sur un sol nu. Ici, c'est tellement humide que la végétation, on a encore beaucoup de sol nu pour le lycopode. Et donc, la station, elle est en bon état de conservation. Ici, le lycopode peut très bien, évolue très très bien. À l'inverse des plantes à fleurs, comme les bruyères ou comme l'ajonc, la famille des lycopodes date de l'époque des dinosaures.
J'ai appris tous ces noms que je ne connaissais pas, en fait. Donc j'ai un peu évolué dans mes connaissances, parce que pour moi, c'était vraiment du latin. Donc là, maintenant, j'arrive à faire la différence, j'arrive à voir, j'arrive à dire à mes collègues quand on vient faire un tour, là, attention, marchez pas là entre les piquets. Voilà, Et alors les plantes carnivores, il y en a surtout dans le chemin qui remonte là-bas. Là, il y en a. Parce que là où passent les engins, là où passaient les engins dans le temps, les engins, c'est là qui poussent le mieux en fait les plantes carnivores.
Parce que le milieu a été réouvert du fait du passage des engins. Ouais. Et au final, ces plantes qui sont pionnières, qui sont les premières à repousser après une réouverture du milieu, elles apparaissent à ce moment-là.
Et là, c'est flagrant, on les voit bien. Hein.
Peuvent apparaître aussi des fois quand c'est pâturé, après les vaches, ça a réouvert des zones et dans la zone humide, pouf, derrière les vaches, on peut avoir des plantes comme des droseras à arriver. Tous ces arbres-là qui n'ont pas encore été coupés, le seront par un de mes collègues qui connaît bien la botanique et qui saura les arracher sans impacter ni les droseras, ni les sphinx, il ira avec sa petite hache ou sa petite tronçonneuse faire ça manuellement. Donc l'ensemble du site sera sans pain. Et après, on devra revenir tous les 3-4 ans. On reviendra pour arracher les petits pins. Il est plus facile de les enlever quand ils font 30 cm que quand ils font 2 mètres de haut. Et ces travaux ont été faits dans le cadre du Lifeland, donc ce programme européen qui nous a permis d'avoir 1,7 million d'euros à l'échelle des 3 sites Natura 2000 landicoles pour lesquels le parc est opérateur, donc les Monts d'Arrée, Ménesmeur et le Ménésome.
Là, on revoit la bruyère partout, alors qu'on ne la voyait pas avant. On ne voyait pas du tout. Et ben là, on est en période d'automne, donc elle est pas belle. Mais au printemps, je pense que ça va être magnifique, en fait. Magnifique.
Donc ici, on est sur le Rortrevezel, donc on est sur les crêtes des Monts d'Arrée, sur la commune de Plouneurmené. Et en face de nous, on a une mosaïque de landes. On retrouve ces milieux ouverts avec des landes qui ont été fauchées très récemment. On a encore les rounds de landes dedans. D'autres landes qui ont été fauchées il y a 2-3 ans. Donc on voit plus que l'herbe est remontée. Certaines landes qui ne sont pas utilisées. Donc elles ont un aspect beaucoup plus brun avec la calune et les fougères qui sont dominantes. Et donc Daniel, qui est avec nous, fait partie de ces agriculteurs qui fauchent les landes des Monts d'Arrée. Ici, on est sur des landes dites mésophiles. Donc c'est des landes qui sont plus ou moins humide, et plus on va monter sur le rocher, plus on sera sur des landes sèches ou sur des végétations de type pelouse sèche sur affleurement rocheux, comme on a sous nos pieds avec des plantes qui poussent sur le caillou, des mousses, des lichens, des espèces adaptées à la roche.
Alors je m'appelle Daniel Maric, je suis agriculteur ici sur la commune de Plouneur. J'ai une exploitation laitière, je suis associé à mon frère, donc en GAEC. Donc c'est de la polyculture élevage en fait. Donc du maïs, des céréales, de l'herbe et de la fauche de landes. Alors c'est une pratique qu'on a toujours fait sur l'exploitation, nos parents, nos grands-parents. Donc on en fait l'usage pour la litière exclusivement. Mais parfois ça peut aussi pallier au manque de fourrage certaines années. Alors, y a des gens qui venaient de la zone légumière aussi, faucher des landes. Oh, c'est essentiellement la molinie, essentiellement, quoi. Donc l'herbe, en fait, la partie fourragère de la lande qui est mangée. Et donc, on a toujours fauché la lande parce que autrefois, il y avait surtout des céréales de printemps. Et pour faire la litière, les céréales de printemps, on n'arrivait jamais à avoir des céréales propres, à avoir de la paille qui était propre. Et c'était toujours compliqué. Donc la lande, c'était quelque chose qui faisait une très bonne litière. Et puis, Donc dans le cadre des contrats avec le PNRA, on a des dates à respecter. Alors ça a peut-être changé d'ailleurs dernièrement. Donc c'est à partir d'août que l'on fauche après en fait la nidification des oiseaux, et donc c'est à partir de, en général à partir de la mi-août et septembre principalement. Donc la fauche est assez simple, hein. On fauche, on laisse sécher, hein. Ça sèche très rapidement, ensuite on fait un fanage et puis on presse, on fait pas de fanage, on fait un endainage et on presse. Il faut des machines assez résistantes, il faut pas venir avec du matériel trop coûteux parce qu'il y a de la casse. Donc on vient avec du matériel qui est assez adapté finalement. Ici le risque évidemment c'est la pierre et donc les bris de machine en fait sur les cailloux. Les parcelles de landes elles sont en rotation tous les 4-5 ans à peu près, on fauche. Et donc, nous, on fauche à peu près une dizaine d'hectares par an. Et donc, on a à peu près 40 hectares en rotation. Donc, tous les 4 ans, on fauche, on revient sur les mêmes parcelles. Avec la lande, en fonction de la zone où on est ici, dans la montagne, elle pousse plus ou moins rapidement. C'est-à-dire qu'il y a des terrains humides et froids où la lande ne pousse pas vraiment, ou alors les zones très ventées où la lande pousse aussi moins vite. Ben, déjà, on a appris ce qu'on fauchait, puisque pour nous, c'était de la lande. Donc, on n'est pas non plus botaniste, mais ça nous intéresse quand même, puisqu'il y a la partie scientifique avec le PNRA que nous, on n'a pas. Et en cela, c'est intéressant. C'est très intéressant.
Alors ici, les landes, c'est intéressant de les faucher pour plusieurs raisons. Déjà au niveau paysager, ce paysage il est maintenu grâce aux landes qui sont fauchées. D'autres landes sont pâturées, mais là on est vraiment sur un secteur où la lande est utilisée pour la fauche. Il faut la faucher parce qu'aussi ça va être intéressant pour des oiseaux. On a des oiseaux qui nichent directement sur le sol. Le courlis cendré par exemple, il va aller nicher sur une lande qui a été fauchée il y a 1 an, 2 ans maximum, parce qu'il ne va pas être sur des zones où il y a des ajoncs. Et ces espèces-là sont très rares. Par exemple, dans les monts d'Arrée, le courlis, on avait 150 couples il y a encore, la fin des années 70. Aujourd'hui, on en a 6 qui survivent à l'échelle des monts d'Arrée. Et donc, sans cette fauche de lande, on n'aurait plus de secteur favorable pour ces oiseaux-là. Donc là, on n'est pas sur la saison du courlis. C'est la raison pour laquelle les agriculteurs fauchent en ce moment. C'est bien parce que les oiseaux sont partis en migration. Mais on peut entendre le courlis sur le son du Muséum d'Histoire Naturelle.
Non, mais on en voit, on en a toujours vu, oui. Enfin, nous, on appelait ça la bécasse des marais. On a appris le nom, je ne sais pas pourquoi. D'ailleurs, c'est les anciens qui l'appelaient comme ça. Et donc, on en a, et elles descendent dans les prairies d'ailleurs pour se nourrir. Et oui, donc c'est quand même un oiseau, celui-là on le connaissait, mais on ne connaissait pas forcément le nom. Puis la migration, tout ça on ne connaissait pas non plus.
Et la fauche de lande, c'est intéressant aussi pour lutter contre les incendies. La végétation, quand elle est rase, non seulement le feu peut être ralenti, mais ça permet aussi un meilleur accès pour les services de secours. Alors les landes, du coup, par exemple, pour les agriculteurs, ça leur apporte soit de la litière, soit une zone de pâturage. Quand les animaux sont mis dans la lande, et ça met les prairies au repos. Et donc il y a tout un intérêt pour une exploitation agricole. Il y a aussi un intérêt au niveau culturel, c'est une pratique ancestrale. Donc c'est intéressant de se rappeler de comment travaillaient nos ancêtres et comment on peut encore travailler aujourd'hui avec ce type de milieu naturel. La lande, c'est également intéressant puisque c'est des espaces naturels qui peuvent jouer un rôle dans la captation du carbone. Donc ça va être le cas des landes humides et des landes qui sont dites stables, ou aussi des tourbières. Et donc voilà, tout un tas de rôles de la lande pour l'homme. Les agriculteurs qui fauchent la lande peuvent contractualiser ce qu'on appelle des mesures agro-environnementales et climatiques. Et donc ça leur permet d'obtenir via la PAC des subventions. C'est un petit peu un petit bonus pour le fait de gérer ces milieux qui ne sont pas forcément faciles à gérer. Et il faut rentrer dans certaines cases, il faut faucher à la bonne période pour ne pas impacter les oiseaux nicheurs. Il ne faut pas faucher tous les ans, les landes, Daniel l'a dit, c'est tous les 4-5 ans qu'ils font les fauchés. Et à l'échelle des monts d'Arrée, donc là on avait à peu près 800 hectares de landes sur l'ensemble du site Natura 2000 qui sont en fauche, et un peu plus de 150 hectares qui sont en pâturage. La fauche de lande, ça a beaucoup diminué. Et là, ça commence à revenir. On a aussi le programme Lifeland qui permet d'avoir de l'argent pour réouvrir des landes qui étaient abandonnées. Donc ça a été un travail ici qui a été fait aussi sur Plouneur-Méné. On a travaillé avec les ornithologues qui nous ont dit les secteurs les plus favorables pour les oiseaux. On a travaillé avec les agriculteurs qui nous ont dit ici c'était géré il y a 30-40 ans. Et donc là, on a dit ça vaut le coup de les réouvrir. Et donc une fois qu'elles sont réouvertes, les agriculteurs peuvent les réutiliser. Non seulement elles sont ouvertes, mais on peut également enlever les cailloux qui ont tendance à bien abîmer les machines. Et de ce fait-là, certaines landes avaient été abandonnées ces 10 dernières années. Alors une lande abandonnée, ici, elle peut se transformer en fourrée d'ajoncs. Donc on a des ajoncs d'Europe qui ont tendance à grandir et on peut avoir des troncs d'un diamètre supérieur à 10 cm et des ajoncs qui peuvent faire plus de 2 mètres de haut. Et là, les agriculteurs ne peuvent pas du tout l'utiliser. Et la faune type courlis, busard ne va plus retrouver une lande classique sur laquelle pouvoir nicher. Ça peut abriter d'autres espèces, du gibier, des chevreuils. Donc il est intéressant de garder également des fourrés d'ajoncs comme ça. mais c'est bien aussi d'en réouvrir puisqu'il y en a, il y en a quand même beaucoup.
C'est vrai qu'on avait tendance à faucher les parcelles les plus faciles, celles qui étaient donc le moins dangereuses, les moins dangereuses pour le matériel. Et puis c'est vrai que grâce au Lifeland, ça a permis de réouvrir des landes qui autrefois étaient fauchées par nos anciens, mais qui prenaient plus de temps que nous, qui avaient plus de temps et plus de patience aussi sûrement. Donc pour nous, non, c'est le Lifeland est une très bonne chose. Ouais. Ça va dans le bon sens. Ah ben c'est vrai qu'on a la chance de travailler dans un paysage qui est extraordinaire ici. Hein. C'est toujours un plaisir de venir faucher de la lande. Ça nous change vraiment des zones de culture que l'on pratique quotidiennement. Et on aime bien venir à la montagne. Ouais. Et puis on rencontre en plus des gens, c'est toujours intéressant. Les gens s'arrêtent pour parler et on a pas mal de touristes, ouais, qui viennent nous voir et qui nous interpellent sur notre métier. Et ça, c'est pas inintéressant non plus.
Les conclusions, c'est qu'on a pu mettre en place pas mal de travaux via Natura 2000 et via le Lifeland, qui en plus de Natura 2000 depuis 2 ans. Et donc, il faut continuer à aller vers la restauration de ces milieux et leur entretien par les agriculteurs. On a un peu plus de 40, entre 40 et 50 agriculteurs qui travaillent avec nous sur les landes, qui vont la faucher, qui vont la pâturer. On a également au parc des collègues qui travaillent sur le volet agricole. Et du coup, cette force permet de mettre en place pas mal d'actions avec les agriculteurs sur le territoire pour maintenir ces habitats ouverts d'intérêt communautaire et riches d'une grande biodiversité.
Voilà pour ce portrait de la réserve Natura 2000 des Monts d'Arrée du parc naturel régional d'Armorique. Tournage et montage signé Véronique Museau de Radio Évasion au Fou dans le Finistère. Pour comprendre comment fonctionne ce parc, sachez qu'il est géré par un syndicat mixte et est financé par le Conseil régional de Bretagne, le Conseil départemental du Finistère, les communes et intercommunalités du parc, les 4 villes-portes, Brest, Carhaix, Châteauneuf-du-Fou, Landivisiau, l'État, l'Europe et différents organismes et partenaires. Le parc accompagne également les porteurs de projets, que ce soit les collectivités, les associations, les entreprises et les particuliers. Pour aller plus loin sur la connaissance des missions et des activités et des accompagnements du parc naturel régional d'Armorique, direction le site internet pnr-armorique.fr. Toutes nos émissions sont en diffusion sur les radios associatives locales de l'Accor Lab et sur Radio Boa, leur émanation régionale en DAB+, également en podcast sur le site corlab.org. À bientôt pour un nouveau numéro de Biodiversité en Air. D'ici là, prenez soin de vous et donc prenez soin de la planète.
C'était Biodiversité on Air, un magazine proposé par l'Accor Lab, la coordination des radios locales associatives de Bretagne, avec le soutien de l'Office français de la biodiversité.